Chers amis, bonjour, bienvenue sur Canal Academy. Aujourd'hui, nous inaugurons une série d'émissions qui propose de réfléchir aux enjeux de mémoire. Comment se construit-elle? Comment évolue-t-elle? Pourquoi parle-t-elle du passé, mais surtout des questions du présent? Nous commençons avec l'historien Pascal Horry, professeur émérite à l'Université Paris 1. Dans son dernier ouvrage, il partage 40 ans de réflexion et de recherche sur la question nationale. Qu'est-ce qu'une nation? Une histoire mondiale, et nous verrons que le sous-titre est important. C'est aux éditions Gallimard. Bonjour Pascal Horry.
Bonjour madame.
Alors, quand vous avez commencé à vous intéresser à cette question nationale, c'était dans les années 60, et vous étiez assez isolé. Cette affaire n'était pas du tout à la mode.
Disons que, effectivement, je commence ce livre en racontant ma vie. J'en suis désolé, mais... C'est une affaire personnelle, entre guillemets, sous-entendu, c'est en fait l'affaire personnelle de tout le monde. Hein. On a forcément une certaine idée de la nation. Et j'appartiens à une génération, pour être clair, j'ai eu 20 ans en 1968, qui était vraiment assez éloignée en général, en ce qui concerne du moins ceux qui s'exprimaient, les avant-gardes intellectuelles, etc., le milieu étudiant qui était le mien à ce moment-là. Assez éloigné de la nation comme référence pour un futur. La nation, bien entendu, on en tenait compte en disant oui, c'est le passé. Mm-hmm. On pouvait ajouter que ça avait joué un rôle positif, mais que c'était vraiment une autre époque. C'était le mal, parce que la nation générait le nationalisme, qui générait la xénophobie, qui générait le racisme, etc. Et puis, pour un milieu universitaire, par exemple, plus subtilement, la nation, c'était au fond une mystification, parce que c'était construit. Benedict Anderson, plus tard Gellner, etc. Et encore aujourd'hui, c'est quand même un discours qui est assez souvent tenu dans les universités ou ailleurs. Et ce que j'ai peu à peu découvert, tout simplement parce que, étant contemporain des années 60, finissantes, surtout des années 70 et 80, eh bien, je découvrais d'abord que c'était le présent, la nation. Que, par exemple, quand certains défilaient dans les années 60 en faveur du peuple algérien, c'était au nom ou en accord avec une organisation qui s'appelait FLN, Front de Libération Nationale, que sur le Vietnam, qui m'était plus proche, ceux qui défilaient en faveur de la lutte contre l'impérialisme américain défilaient en faisant référence à un FNL, Front National de Libération, etc. C'est-à-dire que non seulement, bien entendu, ça avait été un passé très structurant, le 19e siècle, le siècle des nations, on pourrait dire même les lendemains de 14-18, le congrès de Paris, qui est au fond au moins aussi important que le congrès de Vienne, triomphe apparent de la nation. Et puis, bon, c'est vrai que la nation aurait été déclinante. Bien sûr que non. La décolonisation, par exemple. Et entre parenthèses, je dis dans mon livre au passage que la décolonisation, ça ne se limite pas avec un grand D à la période ouverte par la fin de la Seconde Guerre mondiale. Inde, Pakistan, Israël, etc., jusqu'à, justement, l'Algérie et au-delà, pourquoi pas en ce moment. Non, la décolonisation, ça commence au XVIIIe siècle avec les États-Unis, ça se suit par, au début du XIXe siècle, l'Amérique latine. Donc, d'une certaine façon, il y a toute une historiographie à critiquer, ou à tous les cas, à relire, en se disant, attendez, la nation a toujours été le présent, quelque part. Ce qui est vrai, c'est que le XXe siècle, et en 1968, j'y étais complètement. Et encore au début des années 70, tout a basculé à partir du milieu des années 70, pour moi. J'essaye de le démontrer dans le livre. Mais en plein cœur du XXe siècle, il y a eu effectivement une grande expérimentation anationale, voire antinationale, et qui se disait internationaliste, qui s'appelait l'Union soviétique.
L'URSS.
Parce que Union des républiques socialistes soviétiques, c'était un test que je faisais avec mes étudiants, je leur disais, mais qu'est-ce que vous concluez de cette formule? Et ce n'est pas tout de suite qu'ils disaient, mais monsieur, il n'y a pas de rapport avec une géographie précise. Le monde entier, ce qui est tout à fait normal, c'est cohérent avec la pensée de Lénine ou de Trotsky, deviendra un jour une union de républiques socialistes soviétiques. Plus de référence à la nation. Et puis en réalité, déjà l'évolution des démocraties populaires, de l'Union soviétique sous Staline ou au-delà, regardez le contraste déjà à cette époque, dans les années 60 et 70, entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est, qui passait son temps à réhabiliter Goethe, Luther, etc., c'était quand même très instructif. Donc la nation, c'était clairement le présent, et ça l'a été de plus en plus, la chute du mur de Berlin, la libération des démocraties populaires, et l'émancipation des républiques d'Asie centrale, jusqu'à aujourd'hui, où nous parlons, quand quand la pandémie ne nous obsède pas, nous parlons de Catalogne, d'Écosse. Alors là, le rapport est évident avec l'actualité d'aujourd'hui, puisque le Brexit pose la question d'une éventuelle indépendance de l'Écosse, le Kurdistan, j'en passe. Et puisque je parle de la pandémie, il est tout à fait clair que face à cette crise sanitaire, et pas que sanitaire majeure, on a bien vu que c'était le national qui jouait. Donc, peu à peu, je me suis rendu compte, enfin, ou plutôt j'ai été plus convaincu que je ne l'étais dans les années 60 finissantes, que la nation nous accompagnait, et comme le dit dans un beau livre Hélène Carrère-Dancausse, qu'on a assisté en fait à la gloire des nations.
Et alors, la nation, vous le dites bien, c'est une idée mondiale.
Oui, je tenais beaucoup au sous-titre pour qu'on ne se trompe pas. Ceux qui n'ont pas lu le livre, parfois, je me rends compte, commencent à tout de suite à me parler de la France, de la France, de la France, ce qui est très bien. Je me place sous l'égide d'Ernest Renan, pas simplement parce que je suis breton comme lui. Il est évident que sa fameuse conférence à la Sorbonne en 1882, qui d'ailleurs a été testée, ce que l'on ne sait pas, à l'étranger, années auparavant, aux Pays-Bas, donc devant un public étranger, francophile, mais francophone, mais étranger, c'est quand même intéressant. D'ailleurs, l'épouse d'Ernest Renan était d'origine néerlandaise aussi. Bref, ce texte est un texte profondément français par sa conception de la nation, mais il est un texte à valeur universelle. Et comme vous l'avez vu, je rappelle que la Révolution française n'arrive qu'à l'issue de tout un processus et qui m'amène effectivement à reprendre la définition de la nation en six mots.
Qu'est-ce que c'est ? Donnez-nous
la
réponse.
Je me devais quand même, reprenant le titre à Ernest Renan, de donner la réponse. Ça n'aurait pas été très honnête, ni d'ailleurs très habile, de laisser la réponse en suspens. Enfin, je dis ça en plaisantant, bien entendu. En six mots, c'est un peuple, avec un petit p, qui devient, et tout est dans le devient, le peuple avec un grand p. En d'autres termes, parce qu'on pourrait dire, oui, c'est un effet un peu facile. Non, c'est un peuple avec un petit p, c'est-à-dire que c'est une aventure historique qui peut d'ailleurs être très récente. Il est vraisemblable que nous assistons en ce moment à des cristallisations nationales. Le Sud-Soudan, on peut s'interroger, voire peut-être un jour la Nouvelle-Calédonie, qui sait. Bon, en tous les cas, ça peut remonter à la nuit des temps ou ça peut être d'hier. C'est une aventure historique qui se traduit par une cristallisation principalement culturelle. Je n'entre pas dans le détail de ce que je développe sur pas mal de pages. Le rôle de la langue, le rôle de la religion. La religion qui est en fait la symbolisation du politique. Et avant la révolution chrétienne, ce que j'appellerais la révolution chrétienne, où vous avez une hypothèse universaliste qui se pose et qui va rester jusqu'à nos jours, avec l'islam dans la foulée, on peut dire que chaque peuple a sa religion. Chaque peuple a son système symbolique qui l'identifie par rapport aux voisins. Ce qui veut dire que des peuples avec un petit p, il y en a d'une certaine façon toujours eu à l'ère historique, aussi vraisemblablement à l'ère préhistorique, et il y en a eu un nombre considérable qui ont disparu. Hein ? L'histoire, c'est le cimetière, et la préhistoire encore plus, mais les noms ne sont pas gravés. C'est un cimetière de peuples qui disparaissent. Hein. Mais des peuples subsistent, ce qui fait que, pour prendre un exemple, pourquoi y a-t-il aujourd'hui des Estoniens plutôt que pas ? Comme dit Leibniz, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Parce qu'on enregistre, prenons les pays baltes, on enregistre le fait qu'il y a des Estoniens, il y a une identité estonienne, il y a une identité lettonne, il y a une identité lituanienne. Eh bien, c'est l'histoire qui explique qu'il y a trois identités plutôt que deux, quatre, une ou zéro. Bon, ça, c'est l'aventure d'un peuple avec un petit p. Mais ça ne fait pas la nation. Pour moi, la nation, elle intervient parce que dans les temps modernes, on va dire pour simplifier, je développe là aussi évidemment plus dans le livre, entre le XVIe et le XVIIIe siècle, se construit cette révolution intellectuelle considérable sur laquelle nous vivons la plupart, en tous les cas, des États du monde aujourd'hui, quand nous parlons, madame, vous et moi, à savoir la souveraineté populaire. Et ça concerne des pays auxquels on ne pense pas forcément. Je me suis plongé, par exemple, dans le préambule de la Constitution de la République islamique d'Iran, en me disant, je vais être sur une autre planète. Pas du tout. C'est un préambule très, je ne dirais pas siècle des Lumières, c'est exagéré, mais quand même, très souveraineté populaire. Même le préambule de la Constitution de la Corée du Nord, c'est dire. Non, il y a quelques exceptions, elles sont très peu nombreuses. Il y a presque 200 États représentés aujourd'hui à l'ONU, puisque l'Organisation des Nations Unies, contrairement à son titre, c'est une organisation d'États. Je crois officiellement 193, mais disons 200. Il y a deux ou trois États dont on peut dire qu'ils ne sont pas fondés sur la souveraineté populaire. Ils sont fondés sur la tradition d'Ancien Régime, la tradition dynastique, et en particulier, le plus important, l'Arabie saoudite. Il suffit de prononcer le mot Arabie saoudite comme jadis empire ottoman pour voir qu'on n'est pas dans la souveraineté populaire. On est dans une logique dynastique, presque familiale, c'est autre chose. Mais pour le reste, la souveraineté populaire s'est peu à peu imposée. Et dans le cas de la France, on peut dire que tout bascule avec l'auto-proclamation, parce que c'est de l'auto-proclamation, de l'Assemblée nationale en juin 1789. Mais tout ceci a été précédé par d'autres révolutions. J'indique au passage qu'il faut tenir compte, en défrancisant le débat, de la révolution néerlandaise, les provinces unies, de la révolution anglaise de 1688. De façon un peu ironique, Madame Thatcher avait rappelé à François Mitterrand au moment du bicentenaire de la révolution française que c'était très bien, mais que eux, les Anglais, avaient fait leur révolution un siècle et un an avant, 1688. Ça peut se discuter, mais c'est intéressant. Et bien sûr, la révolution américaine. Et ce qui vient de se passer aux États-Unis autour de l'élection présidentielle du Capitole, ça nous rappelle l'importance de la révolution américaine, qui, entre parenthèses, est une révolution qui a réussi à se stabiliser autour d'une constitution démocratique, et par ailleurs républicaine, mais l'essentiel démocratique, donc de souveraineté populaire, en 1789, et qui a conservé la même constitution depuis cette époque, au prix de beaucoup d'amendements, alors que la France a traversé un nombre assez élevé, une douzaine d'expérimentations constitutionnelles. Donc voilà, un peuple, petit p, qui devient le peuple. Et je pense que là, du coup, on comprend mieux à quoi ressemble le monde dans lequel on vit. Mmh. Qu'il s'agisse de l'Arabie saoudite, si vous voulez, de la France ou de l'Écosse.
Et alors, il faut bien insister sur le fait que c'est une dynamique, un processus. Ce n'est pas une idée figée et la construction continue.
Elle continue parce que, pour simplifier, il peut y avoir, suivant les rapports de force, c'est une question de rapport de force, ici et là, des entre guillemets, libérations nationales qui peuvent se poursuivre, des unifications nationales. Quel va être le destin du Kurdistan? Vous avez à l'heure actuelle un Kurdistan sous protectorat américain, en fait, irakien, qui est très largement autonome, pas officiellement quand même souverain. Et puis, vous avez des régions kurdes qui, alors là, sont absolument pas souveraines. Que deviendront-elles? Personne ne le sait. L'Arménie actuelle n'est qu'un tout petit morceau de la Grande Arménie. Et le reste de la Grande Arménie a disparu en fumée, hein, si j'ose dire. Donc, nous ne sommes pas les maîtres de ce futur même proche, mais on peut indiquer que, par exemple, la dynamique nationale en Écosse est extrêmement avancée. Ça, c'est incontestable. Elle est moins avancée, à mon avis, en Catalogne, encore moins avancée en Corse, etc. Donc, il faut vraiment se déterminer par rapport aux situations locales. Il n'y a pas une sorte de fatalité. Il y a, en revanche, un modèle, effectivement, qui est entre autres une accession à l'État-nation. Et quand on a l'État-nation, il est vrai qu'apparaît cette notion sur laquelle j'insiste pour la distinguer de la notion nationale, qui est le nationalisme. Et la France a joué un rôle important à la fin du XIXe siècle dans la cristallisation, d'ailleurs du mot, en particulier grâce à Maurice Barrès, parce que le nationalisme, c'est pour un pays comme la France de l'époque, Troisième République, installée dans... D'ailleurs, Renan vient de prendre la parole, 1882, dans un État-nation qui est à peu près sûr de ses valeurs générales, même s'il y a une contestation en interne. Mais vous avez justement un renouvellement du débat politique où même ceux qui sont critiques à l'égard du système, parlementaire en particulier, on est à l'époque du général Boulanger, puis de l'affaire Dreyfus, vont reprendre le thème national, mais au nom d'un nationalisme qui, là, du coup, permet des distinction en interne entre, pour simplifier, les bons nationaux, les moins bons nationaux. Et là, effectivement, ça se déplace. Le problème n'est plus de se dire « nous sommes français et nous ne nous laisserons pas dominer par l'étranger », par exemple, ce qui est évidemment le stade où on était peu de temps avant les Italiens, les Allemands, etc. Bon, non. Il s'agit maintenant de voir, à la limite, si ça peut être un élément clivant de politique intérieure dans certains pays. Et ça va être effectivement le cas. La première moitié du XXe siècle va fonctionner sur un clivage entre des internationalistes, des patriotes, en France, par exemple, Parti radical est clairement à gauche. Moi, je le mets évidemment à gauche par ses valeurs démocratiques, plus ou moins sociales, hein, radical socialiste, et surtout par une sorte de fonctionnement qui le met, entre guillemets, à gauche de l'échiquier politique, mais il est absolument patriote. Et même d'ailleurs Jaurès, voire même à certains moments, les marxistes autour de Guedes disent « Attendez, on ne va pas jeter le bébé nation avec l'eau du bain ». Il n'en reste pas moins que le mouvement internationaliste a pris de l'ampleur, en particulier avec le modèle soviétique, et que à ce moment-là, le national s'est coloré politiquement, est devenu un élément de clivage jusqu'à l'époque où commence mon livre, d'une certaine façon.
Jusqu'à aujourd'hui. Et pour bien comprendre ce modèle qui est né en Occident, notamment avec la Révolution américaine et la Révolution française, a connu une diffusion assez spectaculaire. Comment expliquer ce succès ?
Alors ça m'a toujours fasciné. Et j'essaye, dans le livre, d'en donner, effectivement, vous avez raison, le rythme spécifique. Je prends comme exemple ce qui s'appelle aujourd'hui la Turquie. C'est quand même très impressionnant de voir que, à la fin du XIXe siècle, le système s'appelle en effet Empire ottoman, comme aujourd'hui Arabie saoudite. Donc on a une logique dynastique multiséculaire, de plus en plus contestée, branlée, remise en cause, d'accord. Et vous avez un mouvement de rénovation interne, jeune turc, dont, alors, le jour où j'avais, il y a déjà quelques années, découvert ça, ça avait été un éblouissement, le mouvement jeune turc s'est constitué son germe initial à Istanbul, de façon clandestine, le 14 juillet 1889.
Incroyable.
Bon, on voit donc très bien la logique, c'est-à-dire que c'est la nation qui est exportée par l'Occident. L'Occident a inventé la nation. L'Occident a inventé l'idée de libération nationale, quitte à ce que ça lui soit retourné comme un boomerang. Hein, parce qu'évidemment, les Indiens, par exemple, ont dit « Mais nous avons très bien compris votre leçon, nous réclamons notre indépendance. Hein. » Bon. Et dans le cas de la Turquie, ça a été un élément à la fois de critique du vieux système supposé vermoulu, peu importe, de ottoman, et en même temps de maintien d'une grandeur, alors qu'il devient désormais une grandeur nationale. Dans les premiers temps, les jeunes Turcs ont été alliés à des mouvements arméniens de libération, parce que ça paraissait, on dirait, mes enfants diraient, raccord. Et puis, très vite, le divorce est apparu, comme on le sait. Et Mustafa Kemal, qui est un personnage quand même extraordinaire du XXe siècle, hein, auquel on ne s'intéresse peut-être pas encore assez, même si on a M. Erdogan comme anti-Mustafa Kemal, et qu'on comprend mieux, par exemple sur le plan de la libération de la femme, le rôle qui a été celui de Mustafa Kemal. Mustafa Kemal est un jeune Turc, mais en même temps qui a compris aussi un certain nombre de leçons des rapports de force du XXe siècle et qui va suivre une voie mais absolument rectiligne avec une proclamation d'une assemblée nationale qui dit clairement « Abolissons le sultanat, proclamons la Turquie comme république et dans la foulée un peu plus tard, abolissons le califat ». Donc l'expérience turque est passionnante, y compris quand il s'agit de se situer par rapport à ceux qui ne sont pas turcs, qui s'appellent donc les Arméniens ou les Kurdes.
Et vous nous invitez à avoir un autre regard sur le XXe siècle, dans une vraie continuité avec le XIXe, et à le lire comme le siècle des nations.
Mais oui, j'évoquais tout à l'heure le fait qu'on concédait quand même que le Congrès de Paris, je dis exprès le Congrès de Paris parce que c'est très peu prononcé, mais en fait c'est quand même la réponse au Congrès de Vienne un peu plus d'un siècle plus tard, et c'est un moyen de dire... Nous avons compris désormais le sens de l'histoire, c'est régime parlementaire, pas forcément républicain, c'est préférable, enfin monarchie constitutionnelle, et nation. Et puis libéralisme économique éventuellement, mais c'est déjà plus complexe. Et évidemment, ce qui se passe en 1919 à Paris, jusqu'en 1920, il y a quand même un traité qui ne sera justement pas respecté, qui est le traité de Sèvres, là c'est Mustafa Kemal qui dit qu'il n'en est pas question, mais pour le reste... on voit bien que le principe national restructure l'Europe, déjà pour commencer, et un peu plus que l'Europe. Mais dans la foulée, la Seconde Guerre mondiale restructure, là pour le coup, le monde colonial. Et je dirais que, par exemple, l'un des lieux où aujourd'hui on peut tester, j'ai eu l'occasion d'y aller une ou deux fois pour certains de ces pays, le mieux, la construction sous nos yeux, hein, le nation building, disent les Anglais, le branding et tout ce que vous voulez, la construction nationale, c'est l'Asie centrale. C'est fascinant. Allez en Ouzbékistan, allez en Kirghizie, vous verrez sous vos yeux ces États-nations qui se forgent leurs propres institutions, d'accord, mais surtout leur propre mythologie. Comme nous, bien entendu, au XIXe siècle, si vous voulez. C'est tout à fait fascinant. Et la question se pose pour l'Afrique subsaharienne. Hein, l'Afrique subsaharienne, qui est un héritage colonial en ce qui concerne sa définition au sens strict, dont les noms ont changé souvent dans une perspective justement de réappropriation du passé. On devient Ghana, on devient Bénin, même si l'héritage par rapport à l'ancien Ghana, l'ancien Bénin est approximatif. Et bien entendu, jour après jour, année après année, ces pays apprennent à constituer un vivre ensemble national. C'est tout à fait clair. Ça, c'est fascinant.
Et vous avez parlé de mythologie. Vous en parlez d'ailleurs sans mépris. Quel est le rôle de la mythologie dans une construction nationale ?
J'en parle sans mépris. Je ne suis pas le seul, évidemment. Dans la mesure où le mythe, c'est neutre. Le mythos par rapport au logos, pensée grecque, etc. C'est au fond un récit. C'est toujours une narration. C'est ce que j'essaye d'expliquer à mes étudiants. Mythe, ça peut vous effrayer. Vous pouvez dire, oh, c'est très flou, ça. Bon. Non, mais écoutez, pensez qu'il y a toujours une narration, il y a toujours un effet de récit. C'est un récit qu'une collectivité se fait à elle-même et pour donner du sens à son destin. Et il pourrait même y avoir des mythes familiaux, voire des mythes individuels. En tout cas, le mythe national est d'une richesse extraordinaire. J'en donne beaucoup d'exemples. Dans sa symbolique, hein, dans sa symbolique, mon vieil ami Michel Pastoureau a beaucoup travaillé sur les couleurs, mais réfléchissez sur la logique des emblèmes, des drapeaux, etc., des hymnes emblématique sonore. C'est très intéressant de voir comment chaque nation, chaque État-nation, mais d'abord chaque mouvement national, se crée un système symbolique. Comment, bien entendu, il raconte à sa manière son histoire. Puisqu'on parlait de la Turquie tout à l'heure, qu'en est-il du caractère autochtone ou pas des Turcs ? Les Turcs sont théoriquement venus d'ailleurs, mais il y a une recherche d'une autochtonie plus ou moins reconstituée. C'est très intéressant de voir comment l'art, les arts, sont à la fois une expression et une construction. Quelqu'un comme Mucha, on parle à la française, mais un Tchèque comme Mucha, quand il retourne à Prague, ben, si vous allez à Prague aujourd'hui, Mucha est partout, mais dans une perspective de nationalité tchèque. Il a en particulier dessiné, peint les cartons de la cathédrale Saint-Guy à Prague qui raconte le grand légendaire tchèque. C'est d'une richesse extraordinaire. Ça produit d'ailleurs quantité d'œuvres tout à fait intéressantes, mais aussi des pratiques. Par exemple, je reviens rapidement sur les pratiques sportives, aussi bien que sur les spécialités culinaires. C'est-à-dire que le national se glisse partout. Je parlais des baltes tout à l'heure. Ce que j'ai découvert, c'est qu'une des grandes festivités baltes, encore en ce moment, ce sont de grands festivals choraux. Hein, ça renvoie à l'origine du nationalisme balte à la fin du 19e, à la résistance à l'égard de l'oppression soviétique dans les années 50-60, qui passait par des compétitions chorales. Mais c'est tout à fait intéressant.
Et dans ce contexte-là, quelle est la place de l'histoire, de l'historien ?
Bah, d'une certaine façon, c'est ce que je viens de raconter. C'est-à-dire que l'historien, il se saisit d'un objet, soyons clairs, un objet auquel il est sensible, mais alors, franchement, je ne vais pas faire de l'ego histoire, c'est surtout celle de mes collègues, mais beaucoup des objets de mes collègues renvoient aussi à leur propre sensibilité, ça me paraît normal. L'essentiel, c'est d'appliquer les règles de la méthode. Moi, j'essaye de faire en sorte que, par exemple, si d'un côté, mythologie, c'est-à-dire système des mythes, est un terme fonctionnel, et ce n'est ni péjoratif ni d'ailleurs amélioratif, bon, c'est comme ça. En revanche, je dois faire en sorte que je ne parte pas du principe, par exemple, le principe de Benedict Anderson quand même est un principe marxiste, Gellner aussi, alors Hobsbawm encore plus, c'est-à-dire que la nation, c'est le passé et c'est une mystification. Je ne peux pas partir de ça, puisque je vois que c'est le présent, que pour l'instant c'est un futur proche. Ernest Renan lui-même dit quelque chose de très intéressant. Quand on n'a pas lu son texte, on s'imagine que c'est une sorte de nationaliste. Il dit « La nation disparaîtra sans doute et peut-être que la Confédération européenne la remplacera. » Mais d'une certaine façon, en 1882, disons 1882 donc pour simplifier, il est beaucoup plus optimiste que nous. Parce que regardez l'état de l'Union européenne à l'heure actuelle. Hein ? Parce que l'année 2020, dont on s'éloigne en ce moment, c'est l'année de la pandémie. L'année 2021 aussi, d'ailleurs, mais c'est aussi l'année du Brexit. Donc l'Union européenne, elle, c'est une tentative, au fond, mondialiste. On ne le dit jamais, mais c'est mondialiste. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on construit un État supranational, il n'y a pas d'autre État supranational, à ma connaissance. L'ONU n'est pas un État supranational. Il est évident que l'Union européenne représente un avenir. Eh bien, à l'heure actuelle, qu'il s'agisse de la pandémie, qu'il s'agisse du Brexit, l'Union européenne traverse une très mauvaise passe. Donc il est quand même assez intéressant sur ce plan-là de voir comment le national nous aide à comprendre notre monde. Et j'irai ironiquement pour revenir sur 1968. À cette époque-là, nous étions beaucoup à au mieux nous amuser, parfois à nous offusquer, d'un chef d'État français qui disait les Russes au lieu des Soviétiques, et qui disait que ce n'était pas forcément une bonne idée de faire entrer l'Angleterre en Europe. Bon, il s'appelait Charles de Gaulle. Ça me paraît quand même intéressant de le signaler, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de Soviétiques, il y a des Russes.
Effectivement. Et alors, la conclusion de votre livre a un joli titre, en tout cas, qui m'a interpellée, « Du bon usage de la nation ». Est-ce que vous pouvez un peu nous partager, vous, ce qui vous habite pour continuer à porter cette idée de nation, mais d'une façon finalement
positive,
moderne, contemporaine.
Alors moderne, ça je ne sais pas, mais positive en ce sens que la nation a quand même porté des mouvements, alors incontestablement de libération, hein, je n'ai pas de jugement de valeur non plus là-dessus, mais enfin des mouvements de libération par rapport à des situations de domination. Ça paraît entre guillemets neutre que de dire ça, après on en pense qu'on en veut. La nation a cristallisé des projets collectifs grandioses quand même, y compris, parlons un peu de la France, un peu plus encore de la France. C'est vrai qu'il y a une conception par exemple du rapport à l'école, du rapport à la liberté d'expression, qui en France a quand même produit des fruits extrêmement intéressant, hein, je veux dire, et tout ça, c'était lié à une certaine conception de la souveraineté populaire. Mais bien entendu, c'est aussi une conception qui, quand elle est ouverte, est une conception accueillante. Il y a quelques années, je le signale au passage, je crois dans une note ou même dans le texte, il y a quelques années, pris l'initiative, j'étais même surpris d'être le premier, parce que je pensais que ça aurait dû être fait avant, d'un dictionnaire des étrangers qui ont fait la France. Parce qu'évidemment, notre pays est un pays d'immigration. J'allais dire comme les États-Unis, sur une base complètement différente, mais comme les États-Unis. Vous avez des pays d'émigration au 19e siècle, l'Allemagne, on en partait. L'Irlande, on en partait, etc. L'Italie, on en partait, entre autres vers les États-Unis. En France, déjà à cette époque-là, on y va, on y entre. Et ça me paraît très important. Ça veut dire que la nation française était, et à mon avis elle a encore tout à fait ce moteur qui l'anime, était quelque chose d'attractif pour quantité de raisons. Et je crois que le plus bel hommage qu'on pouvait rendre à la nation française, c'était ces immigrés qui, pour des raisons diverses, fussent-elles complètement économiques, finissaient par s'installer en France plutôt qu'ailleurs. Et ça, je crois que ça, c'est une question évidemment toujours d'actualité.
C'est une des réussites de la nation, en tout cas.
Ben, à mon avis, oui, évidemment.
Eh bien, un grand merci, Pascal Horry. Je rappelle le titre de votre livre, « Qu'est-ce qu'une nation ? Une histoire mondiale ?» C'est aux éditions Gallimard et c'est vraiment une œuvre magistrale. Merci et à bientôt.
Merci à vous.